Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les rendez-vous de l'Académie, 55e épisode. Content de vous retrouver après cette saison estivale que vous avez traversée, je l'espère, du moins sans trop de dommages, autre que l'instabilité qui caractérise les temps présents, je parle bien sûr de l'instabilité météorologique. Ces quelques journées caniculaires qui ont dû vous tenir enfermés en rang, en tout cas permis, j'en suis sûr, de longues heures, de vous laisser de longues heures de lecture, d'écouter de la musique, avant de, peut-être de vous décider à repeindre le salon, décision sans cesse reportée, et à la veillée de tondre le gazon, pourquoi pas. Je bavarde pendant que mes confrères et néanmoins compères et consoeurs s'impatientent, toujours prêts à vous distraire et à vous instruire. Bonjour Anne, bonjour Robert, bonjour Pierre, bonjour François-Henri.
Bonjour.
Bonjour.
Qui est donc ce François-Henri qu'il vient de citer ? Eh bien, c'est François-Henri Soulier, l'invité de cette 55e émission. Très, très prochainement, dans quelques secondes presque, nous entretiendrons longuement avec lui pour que vous le fassiez plus ample connaissance. Mais en un premier temps, comme d'habitude, Robert a choisi le mot du mois en rapport avec notre invité, je suppose.
Alors, le mot de la fortune du mot, c'est transgresser.
Tiens donc.
Cela ne vous étonnera pas beaucoup si je vous dis comme bien souvent, le mot nous vient du latin. En l'occurrence, transgredir, passer de l'autre côté, traverser, franchir, aller au-delà d'une limite, puis enfreindre. Transgresser est aussi un terme de géologie à propos de l'envahissement par la mer d'une terre qui a subi un affaissement. On dit alors que la mer est transgressive. J'avoue que je ne connaissais pas cette expression à propos de la mer, moi qui suis très maritime et marin. Au sens moral, transgresser, c'est l'action de contrevenir à un ordre,
oui.
Puis une norme. Parlons donc de la norme, des normes. Si elles sont bien souvent perçues comme des protections, elles peuvent aussi être perçues comme des empêchements, des interdictions, des nasses, des prisons. Les normes encagent et rapetissent les êtres, nous explique Marguerite Yourcenar dans sa postface à Anna Soror. Mais si nous percevons les normes plus comme prison que comme protection, c'est donc un devoir salutaire de les transgresser, une exigence intellectuelle, une nécessité pour la sauvegarde de notre liberté. C'est surtout, Verlaine nous y incite. Je suis Henri, du moins reine, je suis son âme, qui par sa volonté, plus forte que l'enfer, ayant su transgresser toute porte de fer, hélas, vient pour te dire avec cette voix morte qu'il est d'autres amours encore que ceci. Transgresser, c'est surtout le fait de dépasser une limite, voire ses propres limites. L'ivresse, cet état dilaté et confus où l'âme oublie ses frontières et ses différences. Le psalmiste, voulant représenter le Seigneur dans cet état en quelque sorte scandaleux de transgression de sa propre limite, ne craint pas d'employer cette image inouïe. Sicut potens crapulatus avino, encrapulé par le vin, tu te sens puissant. C'est Claudel qui cite ça. Mais si transgresser est une exigence, une nécessité face à une erreur faite, ce peut être aussi, selon les circonstances, un plaisir, une jouissance. Encore une fois, nous nous trouvons face à la polysémie d'un mot, ce qui contribue à la richesse de ces mots. J'invoque à nouveau Marguerite Yourcenar, car nombre de ses héros étaient comme elle des transgressifs, notamment Zénon, de l'œuvre noire, mais aussi de ses traductions de Constantin Cavafy, qui était un grand transgressif aussi, que nous évoquerons tout à l'heure. Je lui emprunte ma conclusion, relevant, je cite, « le vertige de l'esprit et des sens transgressant une loi ». C'est dans Anna Soror.
Merci Robert. François-Henri Soulier.
Donc, c'est moi.
C'est toi.
C'est moi-même.
À ma gauche. Beaucoup de Montalbanaises, Montalbanettes te connaissent déjà, t'ont croisé peut-être dans l'une ou l'autre de tes multiples activités sur le plan artistique. Mais là, aujourd'hui, nous allons donc faire tout un voyage dans le parcours ou les parcours de tout ce qui caractérise justement ta recherche. Ta recherche de faire en sorte que ta vie soit la plus riche, la plus belle, la plus étonnante aussi, peut-être, possible. Alors, sur le plan géographique et historique, bon, géographique, je pense qu'on peut, se cantonner. Montauban est l'essentiel de ton territoire.
Ben, curieusement, oui, puisque j'y suis né. Je compte bien y mourir, d'ailleurs, si c'est, ça peut se faire. Ça m'arrangerait. Bon, ça, la date, ça ne dépend pas de moi. Mais, en tout cas pour le moment. Mais, oui, Montauban, c'est un peu le... Je crois que j'étais relié... par une espèce d'élastique à Montauban. Plus je m'en éloignais, plus vite j'y revenais. Mais je m'en suis beaucoup éloigné, heureusement, parce que je crois qu'il faut savoir quitter Montauban. Quitte à y revenir, hein, bien sûr, mais je suis allé en Espagne, je suis allé en Angleterre, je suis allé au Mexique, j'ai travaillé à Strasbourg, j'ai travaillé à Marseille, j'ai beaucoup travaillé à Paris. Effectivement, je m'inquiète toujours de ceux qui ne vivent que dans l'ombre du même clocher toute leur vie. Ça risque d'étioler l'horizon un peu, et donc par voie de conséquence de scléroser la pensée. Donc je me suis beaucoup enfui, beaucoup évadé, et puis le Montauban de mon adolescence était quand même d'une tristesse à mourir, et on n'avait qu'une envie, c'était en partir.
On est au début des années 50.
60, les années 60.
Eh
oui, non, oui. Je suis un petit peu plus jeune que toi.
C'est
non,
vrai. Oh, c'est si peu.
C'est la même époque de toute façon, et c'est vrai que cette ville qui était toute grise, où les protestants surveillaient les catholiques et réciproquement, derrière des façades au crépi abîmées, dans une espèce de grisaille généralisée, c'était pas très enthousiasmant. Je crois que la plupart de la province française était dans cet état, d'ailleurs, dans ces années 60.
Oui.
C'est pour ça qu'a eu lieu le fameux mai 68, où on a secoué cette poussière.
Et on a décrépi.
Toute une jeunesse a voulu retrouver un peu la couleur. Qu'a-t-elle fait, c'est une autre histoire.
Voilà pour la géographie, pour l'histoire alors maintenant. L'histoire, je veux dire ton histoire. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel a été, à un moment, je pense que c'est dans ton très jeune âge, le moment où l'élément fondateur, c'est-à-dire le moment où tu as reconnu le chemin qu'il te faudrait arpenter, c'est-à-dire ton attirance pour l'art, et peu à peu pour, à l'intérieur de l'art, pour l'expression artistique de la scène, du théâtre, du texte et de la voix.
Oui, alors, je crois que je devais être un enfant un peu attardé, parce qu'on situe l'âge de raison à 7 ans. Moi, ça m'est arrivé plus tard, à 8 ans. En fait, ça a été la rencontre simultanée avec la mort et avec le théâtre. Je venais de perdre deux êtres auxquels je tenais infiniment, mon arrière-grand-père et mon chien. Je ne mettrai pas d'ordre de préférence, je les aimais tout autant l'un que l'autre. Et au même moment, mon père a eu, voyant que j'étais un petit peu en phase de dérapage, ou en tout cas d'étrangeté par rapport au monde, il a eu l'idée de me faire figurer dans une pièce de théâtre, au Festival de Montauban, qui était alors un des trois plus importants festivals de théâtre de France, avec Avignon, Carcassonne et Montauban.
Oui.
Et donc on est dans les années, au tout début des années 60. Oui. Et j'ai figuré dans une pièce qui s'appelait « La vie est un songe » de Monsieur Calderón, théâtre du siècle d'or espagnol.
Au programme.
Et pour moi, ça a été une véritable révélation, parce que c'est une pièce assez violente, où il y a pas mal de morts. Mmh. Et à la fin, les morts se retrouvaient au bistrot pour partager un verre. Le théâtre était donc le lieu où la mort ne gagne pas, et dont on se remet. Et à partir de là, mais vraiment, je pense que ce n'était pas très conscient, mais en tout cas ça a été très, très spontané, je me suis mis à fictionnaliser ma vie. Et je crois que je n'ai pas arrêté depuis cette époque, depuis presque 70 ans. Donc si on enlève les 8 qui ont précédé cette révélation, j'ai toujours fait en sorte que ma vie soit une fiction. Parce que le réel est trop blessant, le réel était trop douloureux, le réel était trop violent, et seule la fiction permettait de se sortir.
Donc tu serais l'acteur principal.
Oui, l'acteur et en même temps le sujet aussi, curieusement.
Sujet et acteur.
Sujet et acteur.
L'inventeur même.
L'inventeur, oui.
C'est ça.
Et pour rejoindre ce que disait Robert tout à l'heure sur la norme, c'est toujours le fruit du grand nombre. C'est une des malfaisances de la démocratie, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va tirer une règle du fait qu'un comportement est celui de la majorité. C'est une erreur. Ce serait aussi une erreur d'infliger à la majorité comme règle le comportement d'une minorité. Il n'y a de vérité dans aucun de ces deux domaines. Il faut que chacun se la trouve et fasse son chemin, tantôt dans la règle, tantôt dans la transgression.
À chacun sa norme.
Je crois.
Il y a la découverte tout aussi importante pour toi des livres, de la littérature. D'abord des livres, de la littérature, ça viendra petit à petit. Donc, dès ton adolescence, dès le moment aussi où tu vas entrer au conservatoire
d'art dramatique. C'est en plusieurs étapes. Ça a commencé d'abord par ma mère qui a voulu... Elle n'avait pas envie que j'aille à l'école. Elle pensait, à juste titre, que l'école allait me crétiniser. On pense que ça socialise, c'est vrai aussi. C'est peut-être un autre synonyme de la crétinisation. Et donc, elle m'a appris à lire, à écrire, à compter. J'ai fait tout ce qu'on appelait le primaire en un an et demi. Et je me suis retrouvé à 9 ans en 6e. Ce qui était un sérieux problème, quand même.
Oui, ça doit poser un problème.
Oui, parce que j'étais totalement inadapté. Et là aussi, j'ai commencé à frauder, quoi, à m'arranger avec le réel, enfin, à bidouiller les choses. Parce que j'étais face à des gens qui ne connaissaient rien au théâtre du siècle d'or espagnol. Des gens qui avaient 11 ans, donc 10 ans, 12 ans, plus âgés que moi. J'étais en décalage complet. Ça s'est accentué après,
Ce décalage par rapport à la...
Ah oui, énorme.
C'est très tôt.
Énorme, très tôt. Et décalage accentué par la découverte d'une sexualité atypique, à l'adolescence, à la puberté aussi. Et à ce moment-là, je me suis décidé à considérer que c'était peut-être pas moi qui avais tort, mais les autres qui se trompaient. Ce qui m'a donné une certaine assurance et m'a permis de passer outre une époque quand même...
Ça n'allait pas sans mal à ce moment-là.
Il faut rappeler qu'à cette époque-là, le général de Gaulle avait classé l'homosexualité et l'alcoolisme comme fléaux sociaux, au même titre l'un que l'autre. Et que c'était répréhensible du point de vue de la loi. Donc, un imaginaire déjà frauduleux, déjà de contrebande, si je puis dire...
Oui, t'es contrebandier très jeune.
Un peu. Et ça m'a amené encore plus à essayer de connaître le monde. Et c'est par les livres que je l'ai connu, plus que par les voyages. Après, oui, il y a eu les langues, il y a eu l'anglais, il y a eu l'espagnol. Mais ma vraie rencontre avec le monde, hors du petit cocon provincial un peu étouffant dans lequel je vivais, c'était les livres, effectivement.
Tu cites beaucoup d'auteurs dans la note que tu m'avais fait passer. Je suppose qu'il y en a certains plus importants que d'autres dans les influences qu'ils ont eues sur toi. Y compris des auteurs, d'ailleurs, qu'on a complètement oubliés, comme ce malheureux Henri de Monterland, dont on ne sait plus...
Oui, qui sait ni qu'est-ce qu'il a fait, mais...
Ni qui il est, ni qu'est-ce qu'il a bien pu écrire.
Oui, j'avoue qu'il m'avait bouleversé.
Les autres sont restés, quand même. Enfin, ça ne m'étonne pas d'y découvrir Oscar Wilde ou Lewis Carroll.
Bien sûr. Oui, qui m'ont apporté une fantaisie, comment je peux dire ça, une espèce de... d'élégance par rapport à l'horreur du monde. Hein, ne pas se laisser... piégé de plein fouet par l'émotion, par comment on peut dire ça, par cette espèce de nervosisme qu'on voit aujourd'hui très souvent, qu'on entend à la radio, qu'on voit à la télé, où tout le monde est réactif à tout égard, dans une espèce de prurite, de démangeaison permanente comme ça.
Des gens comme vous parlez de tout,
mettez les choses à distance, que ce soit les l'inquiétude absolue, la mort, que ce soit le social, avec parfois des mots d'humour terribles. Mais c'est justement cet humour noir que je vais retrouver plus tard chez Gary, par exemple, qui dit cette très belle phrase « Il faut profaner le malheur, non pas le respecter, mais le profaner ». Je trouve ça magnifique, c'est une idée sublime. Et on devrait aujourd'hui profaner le malheur un peu plus, je crois. Plutôt que
Romain Gary, qui a été longtemps... peu apprécié, disons, par la critique, et qui maintenant est au premier rang de...
Porté au nu.
Bah, le porte au nez.
Bah, il avait le tort d'être ami du général de Gaulle et de le signaler, de le signifier. Bon, c'était un péché mortel dans les années 60-70.
Il transgressait beaucoup, Gary aussi.
Oui, il transgressait énormément, bien entendu. Jusqu'à un point effrayant, puisqu'il a fabriqué ce faux personnage d'Émile Ajar, de toutes pièces, qui est la transgression absolue, où il a roulé dans la farine le milieu intellectuel parisien de tous les gens qui prétendaient savoir ce qu'était la littérature. Il aura inventé quelque chose de tout à fait autre, de tout à fait magique.
Et puis enfin, donc, je dis enfin, parce que ça devait bien arriver, tu crées ta première troupe de théâtre avec des amis
au lycée,
encore assez jeunes aussi.
17 ans, oui. C'est-à-dire que j'avais, 2 ans avant, rencontré le théâtre de Beckett à Paris. J'avais pu voir, en attendant Godot, dans la mise en scène de la création, avec Armand Meffre,
de Roger Blin,
etc. Ouais. C'était absolument prodigieux. J'ai pris une baffe incroyable.
Je me doute.
Moi qui étais l'enfant du théâtre,
à 14-15 ans.
Du théâtre classique. Hein, l'enfant de Corneille, de Shakespeare, de Calderon, tout d'un coup, de Racine, bien entendu, au combien plus Racine que Corneille. Je me prends Beckett en pleine poire.
Qu'est-ce qu'on fait? On attend.
On attend qui? On attend Godot. Ces deux clochards qui se font des politesses de marquise dans une ornière, là, c'est extraordinaire. Ouais. Et donc, je me suis mis à écrire pour le théâtre. J'ai fait ma première pièce et des amis, des copains et copines du lycée ont bien voulu me suivre. On a créé cette petite troupe. On a eu beaucoup de succès parce qu'on était les seuls Montalbanais à l'époque à faire ça, quoi. Et donc on remplissait des salles, tout le monde venait nous voir, on s'amusait beaucoup.
Quelle salle c'était à l'époque?
Alors, on a commencé par jouer au Théâtre de l'Étoile, un théâtre qui n'existait plus, qui était propriété de l'évêché, je crois, qui était dans pas loin d'ici, du côté de Villeneuve, une petite rue qui s'appelle, je crois, la rue de l'Étoile.
Oui, il y a une rue de l'Étoile.
Voilà, ce théâtre a été démoli. Et on avait pu y habiter pendant quelques saisons, là, y faire des choses. Après, on a été accueillis au Paris, où il y avait une grande scène assez large, et les gens qui tenaient le Paris étaient des amis.
Le Royal, comment il s'appelait? Il y avait un cinéma.
Il y avait le Royal.
Ah oui, non, je comprends.
C'était dans le Paris, boulevard Garrison, on a joué.
Qui existait déjà?
Oui, ça existait. Je crois que ça a été créé dans les tout débuts des années 63 ou 4 à peu près.
Puis il y a eu un cinéma où des fois il y avait aussi des représentations. J'y ai joué. Là, comment ça s'appelait?
Oui, il y avait le Royal.
Le Royal.
Le Royal, place rue de la République.
Ouais. J'ai sauté un épisode qui est peut-être important, tes premiers rapports à l'Espagne.
Oui.
Entre d'une part... parler de l'histoire tout à l'heure, moi ça n'a rien à voir avec... J'ai sauté ça aussi, ça n'a rien à voir avec l'Espagne. Mais j'ai sauté l'épisode de ton grand-père, que j'ignorais complètement
oui,
cette
c'est,
histoire.
Oui, c'est assez étrange. Mon grand-père a travaillé pour son ami Bousquet, René Bousquet, avec qui il était en classe au lycée à Montauban.
C'est un grand-père paternel.
Maternel. Oui, le père de ma mère. Ils avaient participé ensemble, d'ailleurs, au sauvetage.
Au sauvetage, en 1930,
Le pauvre
Poult. Oui.
Voilà, donc le sauvetage de l'inondation des années de 1930. Pour montrer les doubles faces des êtres très étranges. Et ce Bousquet, sauveteur de plein de gens, héros vraiment de 1930, va se montrer en 1942 assez déplorable. Et il engage mon grand-père, je ne sais pas trop comment, dans ce qui était l'ancêtre des CRS, c'était les GRM, je crois, les gardes républicains mobiles. Ou GMR plutôt, les gardes mobiles républicains. Et mon grand-père, à l'intérieur de cette structure, va monter un réseau de résistance pour planquer des Juifs et pour les évacuer vers l'Espagne. Ouvert par Bousquet, était follement épris de ma grand-mère. Vous voyez le problème?
Oui. Début d'un roman.
Couvert un certain temps, parce qu'à la dernière fois qu'il a été dénoncé à Albi, Bousquet ne l'a plus couvert. Et il a été déporté donc en Tchécoslovaquie, où il est mort en pleine débâcle allemande, puisque c'était le 28 avril 1945, tout était fini. Mais les types qui avaient la charge de prisonniers sur, en territoire tchèque, continuer de les garder vaguement. Mon grand-père a tenté de s'enfuir avec ses hommes et il a été descendu donc, par les Allemands. Le 28 avril 1945, et ma maman n'a rien trouvé de mieux, sa fille, que de me faire naître le 28 avril 1953. Elle avait un subconscient d'excellente qualité.
8 ans après. Et donc j'en reviens à l'Espagne. Donc on connaît ta participation à l'association Emmanuel Ezeñam. Je vois que ce rapport a commencé dès l'âge de 15 ans, donc tu peux nous raconter cette histoire-là aussi.
Ben, comme j'étais assez un adolescent un peu pénible, peut-être à vivre, mes parents m'expédiaient tantôt ici, tantôt là. Et là, c'était en l'occurrence à Barcelone, où notre ami Gérard Barret, le comédien, tournait pas mal de films. Et c'est comme ça que j'étais aussi initié au cinéma sur le terrain. Et en même temps que j'ai découvert Barcelone, on est en plein franquisme. Donc le catalan est interdit, on doit parler le castillan. Et en fait, Barcelone est une ville exclusivement catalane. Et les gens résistaient d'autant plus par la langue. Et j'ai découvert là, grâce à mes amis Barret, Gérard et sa femme, un lieu absolument extraordinaire qui s'appelait la Bodega Bohemia, en plein Barriochino, qui était un endroit tout à fait sidérant, où c'était une espèce de salle sombre, au plafond bas, avec un petit piano minable encastré dans le mur, une petite scène rapiécée, sur laquelle jouait un très très vieux pianiste, qui avait un béret que les oreilles retenaient, et où s'exprimait là tous les ratés ou les exilés du music hall, tous ceux qui auraient voulu faire carrière et qui n'avaient pas pu, que des vieux. C'était absolument extraordinaire. Il y avait le maître de revue s'appelait le grand Gilbert. Il était un type longiligne, filiforme, coiffé d'un gibus avec des ailes de doigts accrochés dessus qui battaient pendant qu'il dansait. Il faisait quelques pas, il avait des vraies pantoufles aux pieds et il faisait des pas de tango en prenant le vide par la taille, en imitant une danseuse, pendant que battaient autour de lui les pans d'un grand manteau de femme bordé de ficelles à gâteau doré dont il s'était fait un costume somptueux. Et puis il était après relayé par des vieilles chanteuses qui étaient un petit peu putes aussi, enfin, avant quoi. Mais c'était magnifique, il y en avait une qui avait habillé en petite fille, elle devait avoir 80 ans à peu près, avec le lierre des varices qui montait sur les jambes jusque sous la jupe plissée bleu marine. Et au niveau du ventre, elle faisait semblant de saisir une poitrine qu'elle nous envoyait vers le public comme ça, à pleine main, un fantôme de poitrine, en chevrotant des chansons absolument délicieuses, tout ça en catalan, bien entendu. Voilà la Bodega Bohemia, c'était Fellini au possible.
Oui, ça fait très penser
à Fellini. Et je découvrais en même temps le monde de Fellini, et pour moi tout ça c'était le réel. Mon réel c'était ça, ce monde des ratés du spectacle et en même temps des gloires du spectacle. Ouais. Puisque l'après-midi j'étais sur des plateaux où je rencontrais les grands comédiens espagnols, dont Fernando Fernán Gómez, ou des gens comme ça, et le soir j'étais avec ces exilés en marge de la gloire, en marge de la réussite, en marge de tout, mais pas en plein dans leurs rêves, en revanche.
La devise de la Bodega Bohemia, c'était à donner la scène
la
Saltistas
Nassen.
Oui.
Donner la Saltistas Nassen. En fait, ils venaient crever.
Oui.
Ils venaient pas y mourir. Ouais. C'était magnifique. Ouais, c'était des grands moments. Là. Pour l'adolescent que j'étais, oui, c'était une ouverture incroyable.
Mais je vois que le temps passe. Je voudrais quand même qu'on parle maintenant de ce qui t'arrive depuis 2016,
oui.
C'est-à-dire maintenant ton nouvel engagement dans l'écriture. J'ai imprimé là ta bibliographie, qui est déjà quand même assez colossale, entre les séries policières, les romans noirs historiques, les autres romans, les écrits collectifs, le théâtre, la biographie, celle de Racine. Bref, écoute, le plus simple, c'est qu'on parte du début, c'est-à-dire de Skander Corsaro, rapidement, pour en venir peut-être plus vite au roman noir historique, puis on en arrivera au dernier de ces romans.
C'est une aventure un peu bizarre, parce que j'ai toujours écrit. Depuis l'âge de 10 ans, j'écrivais des tragédies à 10 ans, qui durait un quart d'heure, c'était assez bref, mais c'était quand même très très...
Mais on mourait à la fin.
On mourait beaucoup, mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui était là encore, était mon spectateur préféré. Et il me disait, chez toi c'est mieux que chez Shakespeare, tout le monde meurt au premier acte. Je prenais ça pour un compliment. Je me trompais. Mais bon. Après, oui, donc j'ai continué d'écrire, bien sûr, pour la télé. J'ai été, comme on disait à l'époque, nègre, maintenant on dit ghostwriter ou plume. Oui, bon, oui. Ok, écrivain oui. Fantôme. J'y ai pris un grand plaisir. C'est très agréable d'écrire sous une fausse identité, enfin. En servant quelqu'un d'autre. Et ça apprend beaucoup de choses aussi. Ça apprend de devenir caméléon. Et c'est intéressant.
Oui, il y a un côté comédien.
À la manière d'eux, tu vois. C'est vraiment un jeu. Donc l'écriture, pour moi, ça a toujours été. Puis après, j'ai écrit des spectacles de théâtre, des spectacles de marionnettes. Enfin, tu le sais, combien ont été joués dans le cadre de Lettres d'automne, à Confluence. Bon, c'est un bonheur. Et puis, un beau jour, la soixantaine arrivant, et ça ressemble pas au générique de fin, disons à la dernière bobine du film. Alors je me suis dit, c'est dommage, j'ai vécu plein de choses, j'ai rencontré plein de gens, j'ai participé à des aventures assez chouettes, et tout ça va partir avec moi, ça serait sympa d'en laisser une trace. Et j'ai inventé ce petit personnage de Scander Corsaro pour être le vecteur de cette mémoire des choses vécues, des gens connus, rencontrés, aimés, en camouflant un peu les choses pour pas blesser ou pour pas avoir de procès, enfin bon, bref. Donc j'écris le premier volume et je l'ai envoyé par la poste, comme tout le monde fait. Hein. Et puis la poste m'a répondu, et ça a été les éditions du Masque. J'étais très heureux parce que chez nous, aux toilettes, il y avait tout un panneau de livres des éditions du Masque.
Ah oui.
Mon père était un fervent lecteur. Et puis être reçu dans la maison d'Agatha Christie, c'était chicose, quoi. Bon, là, je me la suis un petit peu pété ce jour-là. C'est pourtant, on reçoit une lettre en te disant, voilà, non seulement j'étais édité, mais j'avais un prix littéraire qui m'a été décerné à Beaune. Le prix du premier roman policier décerné, il y avait quand même Brian De Palma et Sandrine Bonner, tu vois, c'est assez chic. Ça a bien commencé, mais en même temps, c'est très inquiétant quand on commence par un prix, parce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais faire après?
Et donc, tu conjugues.
J'ai conjugué. Tu conjugues. Oui, je me suis amusé avec le français, la langue, cette merveilleuse langue française qui est aussi terriblement pénible, ravissante et désespérante.
Tu commences par « Il n'y a pas de passé simple » et puis tu continues.
Oui.
Avec un futur plus que parfait, le présent n'a plus le temps et l'impératif imprévu.
Alors, je dois dire que le dernier titre m'a été offert par un lecteur du Havre qui, passionné par les aventures de Corsaro, m'avait envoyé une liste de titres en me disant « Je serais très heureux que vous en preniez un ». Et j'ai trouvé impératif imprévu, très chouette. Et je lui ai dédié le bouquin. J'ai dit « Bien sûr, c'est formidable. » On fait des rencontres marrantes avec les lecteurs. Et donc, Corsaro m'a permis, oui, de raconter un petit peu ce que j'avais vécu. Tout ce qui est dans Corsaro est entièrement et absolument vrai.
Oui, on reconnaît beaucoup de personnes et beaucoup de lieux aussi.
Oui, bien sûr. Mais c'est masqué.
Donc ensuite, il y a la série policière historique.
Oui, avec Thierry Bourcy, oui. On a fait des choses à quatre mains, comme on dit. C'était assez amusant, ça, d'écrire à deux. C'est un problème quand même, parce que c'est pas évident que le style soit uniforme et que...
Moi, j'imagine.
Il y a toujours Alors, moi, en général, c'était moi qui passais la dernière couche de vernis. Thierry me laissait faire pour homogénéiser l'ensemble, quoi. Mais c'était très excitant, parce qu'on tirait au sort qui écrivait le chapitre 1. Donc, celui qui avait fait le 1, il allait faire le 3, le 5, le 7, etc. Et l'autre faisait 2, 4, 6. Bon, c'était très, très amusant de s'envoyer la balle comme ça dans une espèce de jeu littéraire où, dès qu'on avait fini un chapitre, on l'envoyait aux copains qui reprenaient la suite. Ça, c'était très excitant aussi comme jeu.
Et on en vient à la série historique dite Occitania, c'est-à-dire Angelus, Magnificat, Requiem. Une série qui m'avait beaucoup plu, ces trois...
C'était très intéressant à écrire. J'ai beaucoup appris en l'écrivant, parce que ça m'a demandé un très gros travail de documentation, évidemment.
Aussi.
Donc je me suis replongé. J'avais beaucoup rencontré la roman grâce à mon ami le metteur en scène Guillaume Laniel, dont j'étais scénariste depuis longtemps. Et nous avions fait ensemble l'an 1000 sur le tympan de l'église de Conques. Et nous avons fait ensuite pas mal de choses autour de l'œuvre du maître de Cabestany, un sculpteur du XIIe siècle, qui m'a vraiment fasciné. Quand 18 m'a proposé de continuer tout seul les romans policiers historiques, j'ai proposé cette période Et ces ateliers de sculpture, qui étaient vraiment les grands lieux, avec les abbayes, de la pensée de cette époque-là, de la réflexion, tout ce qui avait des neurones à l'époque était dans les abbayes. Hein.
Oui.
De l'autre côté des murs, c'était la priorité du biceps oui. sur le neurone. Et oui. donc, ça m'a fasciné de montrer cette époque. Le Moyen-Âge, on s'en fait une idée très préconçue. Ça n'existe pas, le Moyen-Âge. C'est 1000 ans d'histoire. Donc, on peut bien comprendre que d'un siècle à l'autre, il y avait des changements. Mais le 12e siècle, lui, est un siècle passionnant d'invention, de recherche, de poésie, de peinture, de sculpture. C'est dans les abbayes qu'on invente le savon, les lunettes, l'escalier à vis, la sélection naturelle des moutons pour obtenir une meilleure laine qu'à Bruges. Enfin, c'est extraordinaire. Des types qui vraiment avaient pensé le monde. Et j'avais envie dans cette série
mais
de traduire
crées,
ça.
Là, tu crées dans cette série des personnages extrêmement attachants. On est surtout très admiratif. On imagine toutes les recherches que tu as dû être menées. Hein.
Oui. C'est... Mais ça, c'est passionnant. Tu vois. C'est-à-dire qu'on sort de cette recherche là, moins crétin qu'on y est entré. Et tout d'un coup,
c'est
aussi,
ça, t'as dû apprendre voilà, énormément
des choses.
Voilà.
Oui. Alors en même temps, tout l'art, c'est de ne pas diffuser, il ne faut pas dealer nos cartes
oui,
postales
oui.
comme ça.
Oui.
Il faut que, c'est pas un cours d'histoire, je ne suis pas historien, loin de là, mais je m'intéresse à l'histoire, je l'aime, et j'essaie de donner au public, dans le divertissement de la lecture,
le goût,
quelques connaissances et l'envie d'en savoir plus.
Ce goût d'aller plus loin.
D'aller plus oui. loin. Et c'est pour ça que je mets souvent mes bibliographies à la fin des bouquins, pour que les gens voient d'où je viens, et aller se renseigner eux-mêmes s'ils veulent avoir la vérité.
Tu monopolises la parole, si vous avez des questions, bien sûr.
J'ai pas une question, mais j'avoue que j'ai énormément apprécié La Nuit de Grenade.
Ah, ma pièce sur la guerre civile espagnole.
Ça, oui. Ça, c'était, j'ai trouvé que c'était superbe.
Merci.
J'ai vu à Confluence, d'ailleurs.
Oui, quand on
l'avait donné là-bas.
En fait, on l'a donné dans le cadre des journées Manuel Lassagne.
Oui, c'est ça.
Oui. C'est ça. Mm-hmm. Et c'était une commande pour la création de l'association. Et j'ai eu grand plaisir à écrire cette pièce parce que c'était le procès de Lorca. Le procès de Lorca qui n'a jamais eu lieu, puisqu'il a été arrêté, fusillé. Ouais. Mais quelqu'un avait voulu, dans Grenade, à ce moment-là, quand il a été arrêté, prendre sa défense. Ce quelqu'un, c'était Manuel Lefalle. Ouais. C'est prodigieux parce que c'était un homme de droite, très catholique, très, on peut dire, nationaliste.
Bien pensant.
Bien pensant, parfaitement dans la lignée franquiste, mmh. et qui va s'élever contre ses propres croyances, pour sauver la peau d'un ami
ouais.
et pour sauver la poésie. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Quand quelqu'un est capable de renoncer à ses croyances pour le bien, la vie, la liberté, je trouve ça extraordinaire,
ouais.
d'où qu'il vienne. Donc je m'étais dit, ça vaut le coup de faire une pièce là-dessus. J'ai eu beaucoup de chance, d'ailleurs, parce qu'elle a été reprise après par Jacques Lassalle avec Didier Sandre, qu'il a très bien monté au Festival Nava à Limoux. Ça a été très émouvant de l'avoir joué par ces acteurs-là. Mais les acteurs de la création étaient des types formidables.
Puis c'est bien parce que ça incite les gens à essayer d'aller lire Lorca, soit en espagnol, soit en
français,
traduction.
Oui.
Mais voilà. Quoi.
Oui, il y a de très belles traductions.
Ah ouais.
c'est...
Mm-hmm.
Bien sûr, la poésie traduite, c'est autre chose.
C'est autre chose. C'est une autre poésie.
Et c'est sûr que la cinco de la tarde, ça ne sera jamais 5h de l'après-midi.
Non.
N'importe comment qu'on fasse.
On a largement débordé le temps qui nous était compté. Mais quand même, avant de conclure cet entretien, deux mots sur le livre qui vient de paraître. Ton dernier livre, Une citadelle en enfer.
Oui, alors c'est une commande de mon éditrice, Vanessa Gennari. Je n'aurais jamais spontanément écrit un pareil livre de mon propre fait, comme ça, parce qu'elle m'a demandé de faire un livre dans la collection dont vous êtes le héros. Un livre qui avait eu beaucoup de succès dans les années 80-90, où le lecteur, à la fin d'un chapitre, choisit les embranchements de la narration et peut aller voir tel personnage à tel chapitre, tel autre à tel autre, faire telle action à tel endroit, etc. Bon, c'est un boulot de dingue. Et moi, je suis habitué, je suis un type très classique, finalement. Il y a un début, un milieu, une fin à mes histoires, la plupart du temps, même s'il y a des petites sautes temporelles. Mais là, c'était tout retricoté. Et heureusement, moi j'ai dit je ne suis pas capable de faire ça tout seul, et elles m'ont adjoint un monsieur spécialiste de ça, qui s'appelle Gabriel Ferraud, et qui a fait l'arborescence. C'est-à-dire qu'à partir de mon synopsis, il a dit tiens, on peut aller là, on peut aller là, on peut aller là.
Ouais, ouais.
Et chaque fois, moi je remplissais les cases qui m'indiquaient, c'était vraiment... j'avais l'impression de faire un travail d'Oulipo, hein, un peu à la Raymond Queneau, dans le style Alexandre Dumas. C'était vraiment une espèce de challenge un peu amusant. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que mon lecteur habituel ne sera pas trop désarçonné. Désarçonné, il sera sûrement. Pas trop déçu, en tout cas. Et qu'un lecteur à nouveau, peut-être, il prendra plaisir. Encore que moi, je ne sois pas ce qu'on appelle un gamer. Je ne suis pas un joueur. Quoi. C'est pas mon monde. Je ne suis pas un geek non plus. Donc, j'ai peur que ce ne soit pas assez ludique pour les vrais joueurs. Et peut-être pas assez classique pour les vrais lecteurs. C'est un entre-deux. J'espère qu'il boite avec grâce, mais on verra bien.
On verra bien. Bon, on a pris beaucoup de temps. Les musiques, on les écoutera une autre fois. Anne.
Oui.
Anne, donc, dans la galerie des illustres académiciens, qui as-tu choisi aujourd'hui ?
Alors, j'ai choisi Ernest Foissac, qui est né en 1861 à Montcuq, en Bas-Quercy. Il fait ses études au collège de Moissac avant de les poursuivre à Paris, où il obtient son diplôme de médecine. Sa thèse de médecine, soutenue à Paris en 1887, est publiée sous le titre « Contribution à l'étude des escarres chez les aliénés ». Il faut dire qu'Ernest Foissac est un ex-interne de la Maison nationale de Charenton qui apparaît alors comme un modèle original dans le domaine de la psychiatrie. Eugène Hugo, le frère de Victor Hugo, y fut pensionnaire de 1823, il a 21 ans, à sa mort en 1837. Sa forte dépression a-t-elle pour origine son amour pour Adèle Fouché, que son frère Victor épouse ? Ernest Foissac remercie au début de l'ouvrage le professeur Ball d'avoir accepté la présidence de sa thèse. Benjamin Ball est le premier titulaire de la chaire de maladie mentale à l'asile Sainte-Anne, asile inauguré en janvier 1867. En 1863, Napoléon III avait décidé la création d'un hôpital psychiatrique sur l'emplacement de la ferme Sainte-Anne. Diplômé, Ernest Foissac s'installe à Moissac, où son beau-père Léon Larive est négociant en vin. Mais assez rapidement, il délaisse la médecine pour se consacrer entièrement à la littérature. Son ami, le poète et penseur Camille Delty, qui fut maire de Moissac, l'a-t-il encouragé à choisir cette voie ? Ernest Foissac publie plusieurs ouvrages. Tout d'abord, « La chaire souveraine », qu'il dédie à l'écrivain Paul Bourget. En 1895, dans la Nouvelle Revue, les lecteurs pouvaient lire à ce propos. « Ce n'est point faire œuvre banale que de consacrer un long poème à une vérité éternelle, à savoir qu'on se défend vainement contre l'inéluctable puissance de l'amour. » Il fait paraître aussi « Maîtresse de son corps », un roman de mœurs où la ville de Moissac est évoquée. « Fatoum », journal de Paul d'Alvert, paru en 1921, est évoqué pour le prix Goncourt. Le bulletin de la Société des études du Lot, en 1922, recommande la lecture de cet ouvrage qui s'attache aux forces essentielles qui mènent ou menacent les hommes. Il s'agit ici du poids de l'hérédité. « Vieille idée qui est celle des tragiques grecs », précise le bulletin, et dont M. Foissac a signalé dans son livre la terrifiante leçon. La nature rude de nos causes âpres et tourmentées est le fond d'horizon d'un drame de famille poignant et singulier. Catalunya est son dernier roman. Je terminerai en précisant qu'Ernest Foissac fut membre associé de l'Académie de Montauban et que nous ne pouvons lui reprocher d'avoir cédé à l'attrait de la création littéraire.
Il est décédé quelle année ?
Alors, il est décédé, je crois que je ne l'ai pas noté.
Bon.
Je ne l'ai pas noté.
Après le mi-temps du XXe siècle. Voilà. Les amateurs chercheront. Les curieux chercheront. Pierre, dans la rubrique « Mais encore », quel est donc ce bruit dont tu veux nous parler ?
Eh bien, j'ai choisi de vous parler du bruit avec un sous-titre le coq Maurice à Fongencourt. Bon, certains d'entre vous connaissent peut-être la comptine « Chut, plus de bruit, c'est la ronde de nuit ». Bon, en face, nous avons « Le bruit et la fureur », qui est, je le rappelle, oui, le quatrième roman de Faulkner,
oui,
1929. Alors, nous avons tous, pour des raisons purement physiologiques, des rapports intimes et permanents avec le bruit. Son niveau est une des conditions de la qualité de notre vie. Le bruit est donc un phénomène social et un problème de santé publique. Alors, à une échelle strictement locale, nous ne supportons pas, en général, nous supportons qu'une pollution sonore modérée. Alors, ça peut être les manifestations récentes, les 400 coups, parfois des klaxons accompagnant un mariage, plus souvent, le bruit de la circulation automobile routière, en particulier ceux des deux roues réglées pour faire du bruit. Mais nous sommes en fait dans un ensemble national caractérisé dans ce domaine du bruit par des pratiques pour le moins différenciées, pour ne pas parler d'une coupure abyssale, entre un droit protecteur très complet et un refus de principe de toute norme assumée, voire proclamée par une minorité, rarement sanctionnée. Alors, le Code de l'environnement, le Code de la santé publique contiennent de nombreux textes que je vous épargne sur le bruit, dont un texte préparé par le docteur Jean-Pierre Cave lorsqu'il était député de Tarn-et-Garonne pour protéger les mineurs contre les nuisances sonores des écouteurs, des baladeurs. Et il avait fait passer donc des amendements importants sur ce sujet. Alors, ces textes ont donné lieu à une abondante jurisprudence, en particulier à celle suscitée par le chant de feu, le coq Maurice, dans son poulailler de l'île d'Oléron, qui a ouvert, il y a une dizaine d'années, un débat juridique dont il est sorti vainqueur. Il a fallu quand même deux lois, une première de 2021, introduisant les sons et les odeurs qui caractérisent les espaces naturels dans le patrimoine commun de la nation, et puis l'autre loi de avril 24, exonérant la responsabilité de l'auteur d'un trouble de voisinage lorsque son activité préexistait à l'entrée en possession du bien de la personne lésée. Alors, s'agissant des publics soumis à des niveaux sonores forts, un décret de 2017 introduit un certain nombre d'obligations, bien sûr, pesant sur les responsables de ces activités qui impliquent la diffusion de sons amplifiés à un niveau dépassant les 80 décibels sur 8 heures. Alors, les responsables de ces lieux accueillant ces activités doivent notamment faire réaliser une étude d'impact, de l'impact des nuisances sonores. Une note du gouvernement mise à jour le 28 août dernier, c'est-à-dire à peu près le jour de l'ouverture de la fameuse rêve à Fongencourt. Alors, cette note du gouvernement précise que cette étude doit déterminer l'impact sur les riverains, que leur logement soit contigu ou non avec le lieu. Et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande une exposition maximale de 4 heures, 4 fois par an, à plus de 100 décibels qui correspondent à l'intensité du niveau sonore d'une discothèque ou d'un festival de rock. Non, tout ceci aurait paru parfaitement irréel aux habitants de Fongencourt, à supposer qu'ils aient connu ces règles et ces recommandations. Alors, j'ai consulté le guide complet des rêves parties, accessible sur Internet, mais n'y ai pas trouvé l'indication sur le niveau sonore dégagé pendant 4 jours par les baffles installés à Fongencourt et qui aurait du reste l'idée incongrue, peut-être risquée d'aller le mesurer. Alors, une conclusion purement personnelle, notre société semble plus sensible à des micro-problèmes, animaux, tapage nocturne, qu'à des problèmes massifs. Si un effort sensible a été fait dans les ateliers, du moins dans ceux qui nous restent, et au bord des grandes liaisons routières, d'autres bruits de masse, des bruits supposés ludiques, sont largement tolérés, boîte de nuit, rêve parti. Conclusion de France, point d'interrogation.
Merci Pierre. Nous en venons au lieu du mois. Le lieu du mois choisi par notre invité qui va évoquer donc une caverne et une grotte.
Oui, je crois que c'est Camus qui dit qu'il y a un lieu qui nous attend quelque part dans le monde. Hein. Et ben, c'est peut-être vrai. Celui-là ne m'a pas beaucoup attendu parce que j'y suis pratiquement né. Donc, dès le berceau, j'ai appris à marcher au bord de l'Aveyron ou sur le Causse. Et c'est avec grand, grand bonheur qu'il y a 25 ans, j'ai pu trouver, enfin, nous avons trouvé ce lieu qui est une habitation troglodyte. Donc, habité depuis au moins 25 000 ans, mais probablement beaucoup plus, dans laquelle nous mettons nos pas dans des empreintes immémorielles et qui nous renvoie à une perception du temps qui dépasse nos pauvres limites. Et on arrive à pactiser dans ce genre de lieu avec la mort parce qu'on pactise avec l'infini, avec le cosmos, avec un temps qui est totalement démesuré.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Et on a une espèce d'humilité devant la roche, devant ce qu'on peut appeler l'éternité de la roche, encore qu'on sache bien que la Terre elle-même aura une fin. Mais disons, à notre échelle, on peut parler de l'éternité du minéral et la fragilité de la chair humaine, biodégradable et ô combien provisoire, nous apparaît comme une fulgurance poétique tout d'un coup. Et c'est vrai que dans ce lieu, baigné par l'Aveyron, dans la fraîcheur des arbres, et même pendant les périodes caniculaires, il faisait dans ma maison troglodyte 23 degrés au maximum. C'était un pur bonheur, tous les copains venaient se réfugier là parce que partout ailleurs on suffoquait. C'est un pays aussi où on fréquente des blaireaux, mais des vrais, avec quatre pattes. On fréquente des hérissons, des écureuils, des oiseaux à foison. Pour moi, c'est un ravissement absolu. Moi qui, paradoxalement, suis aussi un homme des villes, hein, un homme assez sociable. J'aime bien ces moments
de solitude, dans
la grotte. Ouais. Et puis, à côté de cet habitat, cette caverne que nous avons avec des amis aménagée en théâtre, et nous avons le plaisir tous les étés de faire une saison de chansons, musique, poésie, théâtre, cirque, danse, etc.
Vous avez construit là deux chefs-d'œuvre.
Merci
beaucoup. Vraiment magnifique.
Le site est super.
Des lieux extraordinaires.
On a fait ça pour s'amuser. Hein. C'était vraiment... Je crois d'ailleurs que je n'ai jamais rien fait de plus sérieux qu'en m'amusant. Il me semble.
Merci de savoir vivre ça.
Peut-être, je ne sais pas. Merci à vous. Merci.
Robert, quelques mots sur Constantin Cavafy ?
Oui, alors, c'est un très grand poète, assez méconnu.
Oui, hein. Oui.
Ouais. Alors, c'est très original parce que c'est un grec d'Alexandrie.
C'est ça.
Mais qui est venu en Grèce, il avait 38 ans. Il a écrit un petit journal de sa première arrivée, de ses premiers peuples. Et c'est vraiment un journal, c'est pas poétique du tout. Par contre, il a écrit d'autres choses qui sont superbes. Et moi, j'ai une édition présentée par Marguerite Yourcenar elle-même, qui a traduit les vers de Constantin. Et il y a des choses très belles, quoi. Elle dit « Chaque poème de Cavafy est un poème mémorial ». Il faut oser ce bel adjectif. Chaque poème historique ou personnel est en même temps un poème gnomique. Ce didactisme, inattendu chez un poète de notre temps, constitue peut-être la part la plus audacieuse de son œuvre. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire cinq lignes d'un poème de Constantin qui s'appelle « Le miroir du vestibule ». Un vieux miroir à qui, il y a plus de 80 ans, ornait le vestibule de cette riche maison. Un jeune apprenti tailleur, athlète amateur le dimanche, entra avec un paquet. Il le remit à une personne qui l'emporta avec le reçu. L'apprenti resta seul et attendit. Il s'approcha du miroir, s'y regarda en arrangeant sa cravate. 5 minutes plus tard, on lui rendit le reçu, il le prit et s'en alla. Mais le vieux miroir qui avait reflété tant d'objets et de visages exulta d'avoir réfléchi un instant la beauté parfaite. Très beau.
Le hasard d'une tournée théâtrale en 1980 m'avait amené à Alexandrie et j'avais visité sa maison.
Sa maison,
je le connaissais pas du tout.
C'est un musée maintenant. Hein,
c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Mm-hmm. J'en avais un bon souvenir. Allez, on a pas mis une seule musique aujourd'hui, mais tant pis. J'aimerais qu'on conclue avec la lecture de. Que...
Alors très courte, hein. Je vais réduire ça.
Est-ce que tu... Oui, t'as 30 secondes. Non, allez, vas-y. Non, parce que j'ai le chrono, là. C'est la première page de La vie devant soi, oui. Qui est magnifique. Non, vas-y.
La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au 6e à pied, et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement deux jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et les peines. Elle nous la rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne, non plus, et je peux vous dire aussi dès le début que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. Je devais avoir 3 ans quand j'ai vu Madame Rosa pour la première fois. Avant, on n'a pas de mémoire et on vit dans l'ignorance. J'ai cessé d'ignorer à l'âge de 3 ou 4 ans et parfois, ça me manque. Il y avait beaucoup d'autres juifs, arabes et noirs à Belleville, mais Madame Rosa était obligée de grimper les 6 étages seule. Elle disait qu'un jour, elle allait mourir dans l'escalier et tous les mômes se mettaient à pleurer parce que c'est ce qu'on fait toujours quand quelqu'un meurt. On était tantôt 6 ou 7, tantôt même plus là-dedans. Au début, je ne savais pas que Madame Rosa s'occupait de moi seulement pour toucher un mandat à la fin du mois. Quand je l'ai appris, j'avais déjà 6 ou 7 ans, ça m'a fait un coup de savoir que j'étais payé. Je croyais que Madame Rosa m'aimait pour rien et qu'on était quelqu'un l'un pour l'autre. J'en ai pleuré toute une nuit et c'était mon premier grand chagrin. Madame Rosa a bien vu que j'étais triste, elle m'a expliqué que la famille ça veut rien dire et qu'il y en a même qui partent en vacances en abandonnant leurs chiens attachés à des arbres et que chaque année il y a 3000 chiens qui meurent ainsi, privés de l'affection des siens. Elle m'a pris sur ses genoux, elle m'a juré que j'étais ce qu'elle avait de plus cher au monde, mais j'ai tout de suite pensé au mandat et je suis parti en pleurant.
Merci François. Romain Gary, la vie devant soi, merci à vous quatre.
Merci
à Aurélien, dont j'ai chamboulé la conduite de cette émission. Et nous nous retrouvons au mois d'octobre pour notre prochaine émission. Bon mois à vous toutes et tous.
Merci beaucoup.